Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie, Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous.
Comment allez-vous Laurent ?
Très bien, fraîchement, mais ça va.
Ouais, vous avez bonne mine.
Vous aussi.
Ah, tant mieux. Tant mieux pour vous et tant mieux pour moi aussi, vous êtes
gentil. Exactement, on espère que tous nos auditeurs se portent bien.
Oui, bah, quand ils nous écoutent, forcément.
Ça va mieux, oui.
Dites-nous Laurent, vous allez nous parler de films à regarder depuis son canapé. Alors, combien ce soir ?
Oui, j'ai sélectionné 5 films pour passer une bonne soirée de cinéma tranquillement chez soi. Et on peut aussi éteindre les écrans pour les rallumer, puisque ce ne sera ni un conseil de lecture, ni un conseil Blu-ray, mais ce sera un conseil, un bon plan de Lolo.
Allez, allez, bon plan de Lolo.
On va rallumer un écran quand même, vous en direz plus tout à l'heure.
Oui, vous savez teaser vos chroniques, vous,
Hamsonner, Hamsonner.
Alors, Hamsonner, c'est mieux comme ça, oui, vous avez raison. Ouais. En parlant d'hameçonnage, lui, il fait dans la mécanique et la mécanographie du cinéma, puisqu'il a son retour de manivelle depuis son atelier que tout le monde nous envie et toutes ses admiratrices aussi. Il est avec nous, Guillaume Sidhomme, bonsoir.
Bonsoir à tous et à toutes.
Comment allez-vous Guillaume ?
Très bien.
Ouais ?
Fraîchement, mais très bien.
Ouais, bon.
Quand il a le crâne qui lui comme ça, c'est-à-dire qu'il est en très bonne santé.
Ah oui, c'est bien. Alors vous aussi, hameçonnez-nous.
Oui, un film majeur de la nouvelle vague ce soir, un film noir, drôle et fatal.
Noir, drôle et fatal. Oups, ça fait beaucoup de qualificatifs, ça, pour un seul film, dites-moi. Bon, on le saura tout à l'heure quand vous nous ouvrirez grand les portes de votre atelier. Avec nous également notre homme de loi des séries qui ouvre, lui, son tribunal des séries et qui nous poste chaque fois son petit billet d'humeur. Ce soir, son humeur ira vers la série signée Olivier Marshall, Pax Massilia, de la saison 2 qui est visible depuis décembre 2025 sur Netflix. Et qu'y a-t-il d'autre dans le panier de l'ouvreuse ? Eh bien, plein de belles choses avec l'affiche de la semaine que vous allez scruter, Laurent, avec l'ouvreuse, bien sûr. Il y aura quelques reprises sur le grand écran, avant celle sur le petit avec vous, Laurent. Et puis, bien sûr, en fin d'émission, il y a nos coups de cœur, ces films, ces manifestations, ces expositions, quand il y en a, qu'on a envie que vous alliez voir de notre part. Et puis, ce soir, nous avons un invité de choix, en la personne de Marc Van Mel, le directeur de l'ABC, qui soufflera le week-end. Alors, le week-end prochain, non. Le week-end suivant, oui. Le week-end du 12 février, du 12 au 15, qui soufflera ses 60 bougies. Bonsoir, Marc.
Eh bien, bonsoir. Ouais, on essaiera de souffler le chaud et pas le froid.
Ah, 60 ans, c'est un bel âge.
Ah ben, si les auditeurs avaient la chance de me voir, ils verraient qu'effectivement, c'est un très bel âge.
Certains l'ont dépassé ici, mais... Ouais.
Il ne faut pas trop insister là-dessus. Hein.
C'est vrai.
Marc, 60 ans, ça veut dire que l'ABC est une institution toulousaine.
Oui, oui, alors c'est une institution et en même temps ça fait toujours peur un peu les institutions. Donc on espère que c'est une institution qui reste dynamique, qui a des rêves, des envies et une renaissance permanente.
Alors la renaissance permanente, elle est passée aussi par un changement ?
Oui, nous allons, enfin, du statut d'association, on va passer au statut de SCOP, donc un peu donner la main aux salariés de l'ABC.
Bah, voilà une bonne nouvelle aussi. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu ? Vous avez mis les petits plats dans les grands, puisque pour fêter l'anniversaire sera 4 jours, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, du 12 au 15 février prochain. Et on peut dire qu'il y a quelques belles avant-premières qui sont prévues.
Oui, il y a des belles avant-premières. L'idée, c'était pendant 4 jours de montrer la diversité du cinéma et de ce qu'on propose habituellement. Donc ça va être aussi bien du cinéma jeune public, des documentaires, un film macédonien, une avant-première d'un film américain attendu, des nuits, des quiz. C'est vraiment toute la diversité et la joie du cinéma qu'on va proposer pendant 4 jours.
Vous m'avez dit le plus grand bien de ce film qui vient de Macédoine, justement. Le garçon qui faisait danser les collines. Voilà un beau programme et un beau titre.
Oui, ça fait partie toujours de ces petits... alors, ça fait un peu exagéré, mais ces petites perles, ces petits bijoux de cinéma, on ne s'attend pas à grand-chose. Et en sortant de la salle, On est heureux de l'avoir vu, heureux de pouvoir en discuter avec les gens. Ça se passe en Macédoine. C'est, voilà, un pays, c'est vraiment la ruralité. Et c'est une magnifique histoire d'amour entre un jeune homme et une jeune femme. Et lui est fan de techno. Et ça va être aussi le fond sonore de leur amour. Et c'est un petit bonbon. Mais alors vraiment, j'ai adoré voir ce film. Moi, je sais que peut-être comme chacun d'entre vous, il y a des périodes où on voit deux, trois films, on se dit waouh, 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 là, c'est quand même pas la meilleure période. Et puis, on va voir un film qui va nous redonner envie de retourner au cinéma et d'en parler aux gens qu'on aime, dire va le voir, ça va te faire un bien fou. Et voilà, sans que ce soit du tout dans la sensiblerie ou quoi que ce soit, juste dans ce monde de brut, ça fait du bien d'avoir des films sensibles et humains.
Alors, à retenir aussi, on parlait de ton, de son, la façon dont vous allez ouvrir ces festivités, la première avant-première, la soirée d'ouverture, avec un très beau programme, à la fois l'ensemble de mandolines, c'est la chambre napolitaine, c'est ça ?
Oui, de Julien Martineau, qui va diriger cet orchestre.
Et puis il y a un autre orchestre aussi qui est filmé, j'allais dire mis en scène. C'est d'une certaine façon quand même, on a tendance à oublier que les documentaristes écrivent des scénarios, ils filment pas n'importe comment les choses. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Philippe Béziat a bien fait les choses pour nous, l'orchestre.
Oui, Philippe Béziat, qui va peut-être dire quelque chose aux auditeurs, c'est lui qui avait notamment mis en scène Inde Galante. Qui est un doc assez génial sur le mix entre le rap et l'opéra, mais qui avait aussi fait Traviata et nous. Et là, il va plonger au cœur du Philharmonique de Paris. Et je me permets deux secondes un peu de trivialité, mais moi, je suis resté sur le cul en ayant vu le documentaire. Toute la richesse d'un orchestre, à la fois les confrontations humaines, la technique, les émotions qui nous gagnent, c'est incroyable ce qui va nous faire découvrir. Donc ça s'appelle Nous l'orchestre, il sera présent, Philippe Béziat, effectivement, ça sera le film sera précédé d'un mini concert de 15-20 minutes d'un orchestre de mandoline qu'il dirige. Donc oui, je pense que pour moi, en tout cas, les gens qui aiment la culture, en général, s'ils aiment le cinéma, ils aiment la musique, ils aiment lire. Et là, ça réunit un petit peu tout ça. Donc, on est vraiment très, très heureux de le faire découvrir aux spectateurs.
Et puis, encore un invité qui est aussi un ami de l'ABC, c'est Yves Geland. Un film dans lequel il parle d'un autre ami de l'ABC, Cavalier Seul. C'est Cavalier.
Alain Cavalier, qui est venu plusieurs fois à l'ABC, qui malheureusement, l'âge pas aidant pour le coup, mais qui ne se déplace plus. Et Yves Geland a fait un documentaire, et c'est un plaisir. Alain Cavalier l'a reçu chez lui, et c'est quelqu'un qui a l'œil qui pétille. C'est vraiment quelqu'un qui aime la plaisanterie, titiller, être un peu décalé, toujours avec ce ton très poli. Et c'est un vrai régal à découvrir ce film.
Ce sera dimanche 15 février
à 14h.
14h. Ouais. Yves Geland et son film Cavalier Seul. Pour le moment, on reprend notre bonne habitude du film à regarder tout de suite au début de l'émission. Allez, installez-vous, ça va être rapide.
Oh l'ami, on sourdine, hein ?
Oh ben je veux qu'on m'entende.
Les gens ils dansent, ils veulent pas être dérangés.
Tout le mal vient de là, c'est que personne n'y veut être dérangé.
Laissez tomber, Pliny, les malades.
Tu le connais ?
Je croyais qu'on s'était compris sur ce point. Je ne tolère pas le tutoiement entre nous. Dites-moi vous lorsque vous m'adressez la parole.
Oups là, il est intraitable votre personnage, vous, Guillaume Sidom, expliquez-nous pourquoi.
Eh oui, pas de tutoiement pour tirer sur le pianiste, film de François Truffaut de 1960 avec Charles Aznavour, Marie Dubois, Nicole Berger, Michel Mercier, musique signée du grand compositeur de musique de film, Georges Delru, que vous entendrez à la fin de ma chronique. Il y a des films qui avancent masqués, tirés sur le pianiste, en fait partie à première vue. Un polar, des gangsters, une cavale, des coups de feu. Mais très vite, François Truffaut nous glisse ailleurs dans quelque chose de plus fragile, de plus bancal, de profondément humain. Le pianiste, c'est Charlie Kohler, interprété par un Charles Aznavour étonnant de retenue, un homme effacé, presque invisible, et qui joue du piano dans un bar minable. Mais derrière, ce musicien discret se cache un passé peut-être plus brillant, plus douloureux aussi. Et Truffaut ne nous raconte pas ici cette histoire en ligne droite. Il va zigzaguer, il casse le rythme, il mélange les tons, le drame côtoie le burlesque, la tendresse, flirte avec la violence. Et ça déstabilise volontairement. De Charles Aznavour, évidemment, nous connaissons le chanteur. L'acteur, lui, eh bien, est plus discret, certes, mais pourvu d'une carrière riche d'une soixantaine de films. Et si vous ne deviez garder qu'un seul film, justement, sur ces derniers où il figure, c'est bien Tiré sur le pianiste. C'est dans ce film que ses talents de comédien, cette fois, sont vraiment reconnus. Il lui permet aussi de connaître une notoriété naissante aux États-Unis. Il reçoit enfin la reconnaissance de ses pairs. Aznavour brille par sa composition subtile qui fait ressortir la fragilité de son personnage Charlie Kohler. Bien plus qu'une parodie de film noir, ce long métrage inclassable peine toutefois à rencontrer son public. François Truffaut, scénariste un an auparavant pour Godard dans À bout de souffle, est tout juste récompensé à Cannes pour Les 400 coups, se lance enfin dans la relecture d'une œuvre du grand écrivain de romans noirs américain David Godis. Le pitch, Charlie Kohler, donc pianiste dans un petit bar, commence à avoir des ennuis lorsque deux gangsters s'en prennent à son frère. Ce dernier se réfugie alors sur son lieu de travail. Dans le même temps, Elena, la serveuse, est amoureuse de Charlie, mais il lui cache un sombre passé. Aznavour dans l'un de ses plus beaux rôles au cinéma, celui donc d'un pianiste de bar qui doit affronter des gangsters et se retrouve donc face à son passé qu'il tente pourtant de fuir.
C'est le second film de Truffaut après Les 400 coups qui était sorti juste l'année précédente, et c'est sans doute l'un de ses films les plus inventifs et lyriques.
Oui, totalement en contre-pied du précédent, partant dans tous les sens, avec des personnages quasi obsédés constamment par les femmes, des dialogues qui vont osciller entre la rêverie, le drôle, mais aussi le tragique. Charles Aznavour est formidable dans son personnage un peu monolithique, charismatique, mais timide, habité par une étrange fièvre. Ici, même si l'amour des livres n'est pas visible à première vue, eh bien, il imprègne le film hors cadre, l'humour comme le tragique, qui sont très présent, l'enfance aussi, l'amour des femmes aussi, bien sûr. Et puis les trois personnages féminins principaux, parlons-en, Léna, Thérèse et Clarisse, la prostituée, ils sont magnifiés comme jamais et sublimés par les présences à l'écran de Marie Dubois et Michel Mercier, Tiré sur le pianiste, un film qui refuse de choisir, un film de la nouvelle vague qui joue avec les codes du cinéma américain tout en les sabotant avec élégance. Les gangsters sont parfois ridicules, Truffaut filme l'amour comme un accident, la mort comme une absurdité, la solitude comme un état permanent. Et puis il y a cette mélancolie sourde, persistance. Charlie ne se bat pas vraiment contre son destin, il l'a subi, il baisse les yeux, il joue du piano, il laisse la vie passer. C'est peut-être pour ça que le film nous touche encore aujourd'hui, parce qu'il parle de ceux qui se cachent, de ceux qui ont aimé trop fort et qui n'ont jamais vraiment su s'en remettre. Tiré sur le pianiste n'est pas le film le plus célèbre de Truffaut, mais c'est sans doute l'un de ses plus libres. Un film qui trébuche parfois, oui, mais qui trébuche comme la vie, sans prévenir et sans jamais perdre son humanité. Tiré sur le pianiste, donc, est devenu un classique du cinéma mondial, un film majeur de la nouvelle vague, vénéré par de grands metteurs en scène comme Quentin Tarantino ou Martin Scorsese, excusez du peu. Un film sur la fuite, sur la peur d'aimer, après avoir trop perdu. Voilà sans doute pourquoi il continue de nous toucher plus de 60 ans après. À retrouver donc ce jeudi 5 février à 19h30 au Pathé Wilson à Toulouse, dans le cadre de la Galaxie Truffaut. Retrouvez toute la programmation sur lacinémathèquedetoulouse.com et en Blu-ray et DVD chez Carlotta. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon, et surtout, allez au cinéma.
Delru a composé la musique du film de François Truffaut, tiré sur le pianiste. Avec nous toujours Marc Van Mel. Alors après ces belles avant-premières que vous proposez, il y a plein d'autres choses, des avant-premières certes, puis il y a des nuits aussi, des nuits intenses. Il va s'en passer des choses la nuit à l'ABC.
Oui, 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 que mes collègues féminines appellent les nuisettes, avec beaucoup d'ironie. Oui, on va essayer de faire un peu des thématiques, à savoir une nuit plutôt dense avec les Demoiselles de Rochefort et Dirty Dancing. Là, donc, on vous invite tous à réviser votre portée pour Dirty Dancing, bien évidemment, avec une soirée plus vampire zombie, etc., avec Love Lies Bleeding. Et puis aussi une boom avec notamment Interstellar 5555, Daft Punk. Vous avez sans doute vu ce dessin animé. Voilà, et une musique assez géniale de Daft Punk, donc on va essayer de faire danser les foules. Mais oui, oui, il y aura beaucoup de choses, et puis on va reprendre aussi, dans une nuit culte, des films qui ont marqué l'histoire de l'ABC, à savoir Francesca et Mommy, de Dolan, et puis Une nuit déjantée avec Steak, de Dupieux, et puis Shaolin Soccer, quand les moines Shaolin rencontrent le football. Enfin, du grand n'importe quoi, comme on aime aussi de temps en temps.
Et c'est ce que vous aimez faire partager à l'ABC, justement cet amour du cinéma qui sort des sentiers battus un petit peu.
Oui, de tous les genres. Enfin, je pense que, comme vous, ce qui est important, c'est d'aimer, d'avoir envie de partager cet amour, alors quel qu'il soit, sans chapelle, sans doctrine, etc. Je trouve que, enfin, la comparaison, mais ça c'est un petit peu mon alcoolisme, mais un petit rosé bien frais en été, c'est génial, et puis un grand cru classé avec un bon repas, c'est génial aussi. Il n'y a pas de comparaison à faire, c'est des moments dans la vie, et bien sûr avec modération pour le vin, mais sans modération pour le cinéma.
Ah, évidemment. On continue ce tour d'horizon, ces promesses que vous nous faites à propos des 60 ans du cinéma ABC et la façon de fêter l'anniversaire. Mais pour le moment, Laurent, vous et l'ouvreuse, vous scrutez l'affiche de la semaine.
À l'affiche cette semaine, À pied d'œuvre, le nouveau film de Valérie Donzelli avec Bastien Bouillon, Virginie Ledoyen et Valérie Donzelli. Alors vous le savez, pour ceux qui se sont essayés à l'écriture, achever un texte ne veut pas dire être publié. Être publié ne veut pas dire être lu ne veut pas dire avoir du succès, et avoir du succès n'augure aucune fortune. À pied d'œuvre raconte donc l'histoire vraie d'un photographe à succès qui abandonne tout pour se consacrer à l'écriture et découvre la pauvreté. Dans À pied d'œuvre, Franck Courtès racontait la trajectoire que le photographe à succès qu'il était avait emprunté après avoir décidé de tout abandonner pour se consacrer donc à la littérature. Une vie faite de petits boulot difficile et sous-payé et conquis de haute lutte au fil des annonces parues sur une plateforme devenue tout à la fois sa bouée mais aussi son bourreau. Aujourd'hui, donc, Paul travaille effectivement comme main d'œuvre sur un chantier, mais demain il peut louer ses services pour monter une armoire, poser des tableaux ou vider une cave, bref, exécuter n'importe quelle corvée, payer les queues de cerises du moment qu'elle lui laisse le temps pour écrire. C'est ce languissement donc vers la précarité que raconte ici brillamment Valérie Donzelli, primée pour son adaptation, co-signée avec Gilles Marchand à la Mostra de Venise. « Tu n'es pas un vrai pauvre. Pourquoi tu n'écris pas un livre qui marche? Je ne comprends pas pourquoi tu t'embêtes, tu t'entêtes à faire ces boulots de merde. J'ai peur que tu finisses à la rue. Voilà, si personne dans son entourage ne le comprend. » Paul, inaccessible au découragement, persiste et signe. « Ce n'est pas la misère, mais on commence à en avoir une vue bien dégagée », résume le même Paul. Donc le film, vous l'avez compris, pose le problème de la place de l'artiste dans notre société, où bien peu arrivent à vivre de leur art. La réalisation, longtemps traversé dans l'arène des pommes ou Notre-Dame, d'effets pop, ludiques et malicieux, fait ici fi de toute fioriture, trouvant le bon ton et la bonne distance pour éviter tout misérabilisme. Cet hyper-capitalisme qui meurtrit le monde n'est pas prêt de s'arrêter, s'inquiète d'ailleurs Valérie Donzelli dans les interviews. La réalisatrice épouse le jusque-boutisme tranquille du personnage, dans la peau duquel Bastien Bouillon impressionne par sa capacité à se réinventer comme acteur en s'abandonnant à un rôle dénué du moindre moment spectaculaire. Le minimalisme est ici élevé au rang d'art. Louis-Marie, vous avez rencontré Valérie Donzelli et le co-scénariste Gilles Marchand.
Et oui, justement, grâce à l'ABC, puisqu'ils étaient passés dans vos murs, Marc Van Mel, pour présenter le film en avant-première à pied d'œuvre. Et vous l'avez dit, Laurent, Valérie Donzelli interroge la survie de l'artiste dans un monde contemporain marqué par la précarité. Mais le livre l'a séduit, mais il y a aussi quelque chose d'autre qui l'a interpellé, c'est qu'elle a trouvé quelque chose qui lui ressemblait à elle. Écoutez ce qu'elle en dit.
Moi-même, j'étais comme dans le film, un peu dans un doute créatif. C'est-à-dire, j'étais en train d'écrire un film qui était très laborieux, j'y arrivais pas. Je venais de faire un film qui avait marché, mais en même temps, je savais pas qu'est-ce que j'allais faire après, ni comment j'avais plus trop d'argent. Enfin, j'étais un peu emmerdée, quoi. Et puis quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. J'ai en moi quelque chose qui me parle, et avoir ce support en plus, ça aide. Et puis surtout, j'avais envie aussi de faire un film qui soit un peu une sorte de défi, de mise en scène aussi, parce que je trouvais ça beau de raconter quelque chose de très ténu, de faire un film dans lequel il n'y a pas énormément de rebondissements, de raconter la souffrance de quelqu'un, mais de façon presque intérieure. Donc je savais que le film il serait beaucoup, beaucoup raconté, et ça a été un des points de départ avec Gilles. Quand j'ai su que je voulais le faire avec lui tout de suite, je lui ai donné le livre et je lui ai dit, Gilles, j'aimerais bien que tu lises ce livre parce que je voudrais l'adapter et je voudrais avoir ton avis sur si toi tu veux aussi un film.
Et il a bien fait de lui donner son avis positif pour faire un film, parce que là, pour le coup, même si c'est un film adapté d'un bouquin qui parle beaucoup, comme elle l'a décrit, Valérie Donzelli, c'est un film plein d'images et plein de belles images. Et elle sombre pas une seule seconde dans le misérabilisme, Valérie Donzelli, et elle filme une fatigue diffuse, une violence silencieuse, inscrite dans les gestes du quotidien. Et puis, le film met en lumière ce sacrifice intérieur consenti par Paul, c'est-à-dire s'effacer socialement pour préserver un espace intime où l'écriture peut exister. Peu à peu, Paul donc transforme ce qu'il endure en autofiction et il réorganise le réel pour lui donner sens. Alors, justement, c'est là où elle est belle observatrice, Donzelli, elle montre bien ce qui est l'essentiel dans ce livre, c'est qu'elle traduit la transfiguration de cet homme par touches discrètes. Il y a les ruptures de ton, les suspensions du temps, les images en Super 8 pour évoquer les souvenirs et les lieux chargés d'émotions, et puis les cadrages aussi qui placent Paul en observateur du monde. Tout ça fait que le film montre ce qu'est la condition de l'écrivain et plus largement celui de l'artiste contemporain qui est pris dans l'ubérisation du travail, mais il affirme l'écriture comme un acte de résistance intime et politique.
Petite revue de presse.
Oui, je vous en prie.
Le Figaro a beaucoup aimé. À pied d'œuvre est sobre, juste, modeste. On est entre Reggiani et Souchon, le 70 mm et le Super 8. Quant à Bess et Mouillon, quel comédien rare, selon Eric Neuhoff. Libération a bien aimé aussi. La cinéaste, que l'on n'entendait pas forcément sur un tel sujet, trouve justement dans ce pas de côté une manière de renouveler son cinéma tout en restant fidèle à ses fondamentaux. Allez, une petite dernière positive. Le Point a beaucoup aimé aussi. Chronique intime, sensible et parfois comique. Ouais, il n'y aura pas de chronique négative. J'ai envie d'être positif aujourd'hui. Voilà.
Vous faites bien. Voilà, voilà.
À l'affiche aussi cette semaine, on peut voir Marsupilami de Philippe Lachaud. Ça vous y échapperait pas, avec Jamel Debbouze. On peut voir peut-être un film intéressant, là. N121, bus de nuit, de Morad Aissaoui, histoire de trois jeunes qui s'embarquent dans un bus. Mais il va y avoir une prise d'otage, donc tout est en huis clos comme ça dans le bus. On peut voir aussi Rental Family, dans la vie des autres, d'Ikari. Retour à Silent Hill, de Christopher Gantz, le film d'horreur de la semaine.
Tiré d'un jeu vidéo.
Il me semble que c'est un jeu vidéo, oui. Bonne remarque. James est attiré vers Silent Hill, une ville autrefois familière, mais aujourd'hui engloutie par les ténèbres. Et James va affronter des créatures monstrueuses et va découvrir une vérité terrifiante qui le poussera aux limites de la folie. Louis-Marie, est-ce que vous avez été poussé aux limites de la folie?
Non.
Vous avez rencontré le réalisateur, Christophe Gans?
J'ai eu l'occasion de rencontrer Christophe Gans, oui. Figure importante de la pop culture française, réalisateur reconnu. Il avait quand même à son actif Crying Freeman, Le Pacte des Loups, Pacte des Loups ou Silent Hill, la première adaptation en 2006. C'est lui qui a créé la fameuse le fameux magazine de cinéma Starfix, qui a popularisé des grands noms du cinéma fantastique comme Cronenberg. Si on n'en cite qu'un, c'est grâce à lui, grâce à Gantz, c'est grâce à ce magazine qui a œuvré dans les années 80 et 90. Et on sait qu'il est bon réalisateur, bon metteur en scène. Il aime bien ce genre de film. L'adaptation donc d'un jeu vidéo. Mais il aime bien aussi faire un pas de côté, parce que il a pensé ça comme une œuvre autonome. Il reprend les grandes lignes, personnages et thèmes du jeu original, mais aussi il assume de pas en restituer toute la profondeur psychologique et l'angoisse. Et ce qu'il aime justement, c'est les images et les références. Il aime mettre des références dans ses films. Alors, on prend du plaisir ou on n'en prend pas. Toujours est-il que c'est intéressant de l'écouter, parce que là, il va dire qu'il est un cinéaste antipsychologique, ouais, antipsychologique.
Je me définis souvent comme un réalisateur antipsychologique. En fait, c'est simplement parce que j'aime, pour moi, raconter une histoire, ça doit pas passer nécessairement par l'introspection des personnages, mais aussi par les couleurs, par le son, par le cadre, etc., etc. C'est-à-dire que pour moi, tous les éléments doivent exprimer en fait l'état d'esprit du personnage. Donc j'ai toujours fait ça dans mes films, c'est comme ça que je me définis, etc. Et puis parce que je suis un grand amateur de cinéma muet. Donc le cinéma muet, pour moi, a été une espèce de moment magique dans l'histoire du cinéma. Il y a des films muets qui, pour moi, ne pourront jamais être surpassés. Moi, j'aime bien que on puisse se dire, tiens, je coupe le son, du moins j'enlève le dialogue, et puis je comprends quand même le film, je le comprends après à ma façon, parce que tout est évocateur, en fait. Donc c'est pour ça que j'aime travailler, avant de démarrer la pré-production d'un film, je travaille pendant un an sur tout, justement, le design du film, les couleurs. Pour moi, tout ça est une façon de raconter l'histoire. La musique est une façon de raconter l'histoire, mais aussi les couleurs, c'est une façon de raconter l'histoire. Mais après, j'adore aussi le cinéma psychologique. J'adore Bergman. C'est pas un problème. Mais simplement, c'est pas ma cam, quoi. C'est pas là où moi, en tout cas, je suis bien.
Et oui. C'est pas là où il est bien. Le spectateur, lui, peut être déboussolé parce que, de temps en temps, son récit peut être trop explicatif. Et comme il est très explicatif, il sacrifie le mystère, la tension et le développement des personnages secondaires. Et puis à d'autres moments, sa mise en scène propose de belles idées, c'est sûr, mais ça reste narrativement plutôt opaque à cause d'ajouts qui sont parfois discutables. Il fait revenir des personnages qu'on avait vus dans le premier film, la secte qui avait disparu à ce moment-là. Que revient-elle faire là? C'est la question qu'on peut se poser. Donc, c'est une adaptation respectueuse, Silent Hill, dans l'intention, mais décevante dans l'exécution. Et le spectateur, qu'il soit connaisseur du jeu ou pas, est frustré.
À l'affiche aussi cette semaine, pour les gourmands, Le Gâteau du Président, caméra d'or à Cannes en 2025, film d'Hassan Hadi qu'on peut voir au Grand Palais à Cahors ou au Cosmo à Toulouse. On peut voir un film américain, The Mastermind de Kelly Richard, au Régent Saint-Gaudens sur l'ABC de Toulouse. Un film de braquage qui se passe dans les années 70. On peut voir un documentaire, Amadou et Mariam, Son du Mali, de Ryan Marley au CGR à Rodez. On peut voir, pour les plus petits, Les Toutes Petites Créatures 2, un film d'animation dès 3 ans de Lucie Bizarre, au CGR Le Paris, Montauban ou à la BC à Toulouse. On peut voir Blue Way au cinéma, Collection en cuisine, film d'animation dès 3 ans là aussi de Mélanie Zanetti. Pour les gourmands encore, Biscuit, le chien fantastique, hein, c'est pour vous, ah oui. Guillaume, hein, vous êtes très gourmand, vous aimez les biscuits.
C'est un chien qui est fantastique.
Oui, on peut faire le combo biscuit et le gâteau du président.
Oui, exactement. Exactement.
Un film d'animation des 6 ans de Shia Wagman. Et pour finir, 200% loup, film d'animation des 6 ans d'Alex Taderman, qu'on peut voir par exemple au CGR à Montauban.
Just
Et non, ils sont pas de Liverpool, ces deux-là. Ils s'appellent Harley Speech et Larry Lee. Et ils sont d'un bled paumé de l'Iowa. Eh oui, mais dans les années 70, on écoutait beaucoup la pop anglaise. Et c'est vrai que ça ressemble beaucoup, beaucoup aux Beatles. Et on peut les entendre dans The Mastermind de Kelly Richard.
N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence.
Et on retrouve tout de suite notre homme de loi des séries qui vient de réouvrir son tribunal dans lequel il va traiter de Pax Massilia, saison 2.
Je déclare l'audience ouverte.
Cher Louis-Marie, je vais vous parler d'une série télé française sur Netflix. Une série d'Olivier Marchal, ce réalisateur français, très centré sur le monde de la police. Je vais vous parler de Pax Massilia, saison 2. Alors, ça nous parle de quoi, Pax Massilia ? Alors déjà, c'est une fiction policière qui est produite par Gaumont Télévisions à la création Olivier Marchal. Et vraiment, on s'en serait douté tellement cette série transpire de tous les tocs d'Olivier Marchal, mais dans le bon sens du terme. Elle est diffusée sur Netflix et elle s'est imposée dans énormément de pays. Et il y a des raisons, parce qu'elle a des grandes qualités. Alors ça parle de quoi ? C'est un groupe de policiers de la brigade des stupéfiants de Marseille, évidemment vous en doutez, aux méthodes un peu particulières, qui sont menées par Lies Benamar, qui vont intégrer une nouvelle recrue venant de Paris. Un petit affrontement Paris-Marseille classique. Il va y avoir, évidemment, un nouveau criminel qui est aux méthodes radicales, qui va commencer à sévir, et les liens de Lies Benamar avec la pègre marseillaise vont évidemment plonger toute la police locale dans le désarroi. On est un peu dans un, ce qui aimait la série The Shield, un peu dans un The Shield, mais avec des personnages qui ont quand même, je dirais, un peu plus de morale que dans The Shield. Et très vite, ils vont être embêtés par l'IGPN qui va venir enquêter sur Lies Benamar et sa brigade. Pourquoi ça s'appelle Pax Massilia ? En fait, ça met en fait ce deal tacite entre truands et policiers où on se tourne autour, on se chasse un peu, mais on évite de rentrer dans une guerre ouverte. Et ce nouveau criminel, aux méthodes radicales, lié quand même à Lies Benamar, va changer la donne, très fortement. Et va mettre en péril la Pax Massilia, et la ville peut être plongée dans un bain de sang. Et encore une fois, nous avons le héros, aux méthodes très limites, mais qui va tout faire au regard de sa vision à lui de la justice, pour empêcher cette explosion de violence. Va-t-il réussir ? Ben là, c'est tout l'intérêt de la série. Alors, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est à regarder ? Est-ce que son succès est mérité ? Alors, Olivier Marchal, moi, je l'adore. J'adore le personnage, j'adore ce qu'il fait. Il a eu une première phase qui était au cinéma sur des policiers dépressifs, taciturnes. On a le fameux 36 Quai des Orfèvres, magistral, les Lyonnais, que j'aime beaucoup aussi. Puis, il a switché vers les plateformes. D'ailleurs, il a expliqué pourquoi. C'est que les plateformes lui donnaient beaucoup plus de moyens que le cinéma conventionnel. Donc, c'est quand même un peu pour se poser des questions sur un tel réalisateur. Il a fait des choses moins bonnes. On se souvient aussi des séries sur Canal, notamment Braco, une saison extraordinaire, puis il se désengage de la série. Et à partir de la saison 2, ça devient catastrophique. Il a fait un film pour Prime Video qui n'était pas génial. Et les débuts sur Netflix étaient assez moyens. Pax Massilia, très vite, s'est imposé parce que déjà la réalisation est excellente. La réalisation est excellente, les scènes d'action sont vraiment bien filmées, les personnages qui sont Olivier Marchalesque jusqu'au bout sont attachants, et vraiment il a cette tendance à prendre des gueules. Voilà, c'est vraiment des gens qui ont une gueule particulière, des beaux gosses, tout ce que vous voulez, hein, mais qui ont des gueules, ils marquent, c'est pas insipide. Donc en fait, on est aussi très loin de ce que fait habituellement Netflix. On n'est pas sur une production cahier des charges, on est vraiment, il y a des aspérités. Moi, Pax Massilia, j'aime beaucoup. Évidemment, c'est pas un documentaire sur la police. Les policiers qui auraient ces méthodes finiraient en prison à partir du premier épisode. Évidemment, parfois ça fait un peu telenovelas. Il y a des retournements de situation toutes les deux minutes et les héros s'enfoncent de plus en plus dans l'obscurité. Mais si vous aimez Olivier Marchal, c'est génial. C'est génial parce qu'en fait, il explore cette dualité hein, qu'on a eu longtemps dans les films de truand à une autre époque, du lien entre le truand et le policier, qui a raison. Aussi une vision désabusée de la société française et donc de l'utilité de lutter pour la justice française. Moi, clairement, j'aime énormément Pax Massilia. Je comprends son succès. Et même si cette production a tous les défauts qu'on peut reprocher aux œuvres d'Olivier Marchal, elle en a aussi toutes les grandes qualités et le cœur de ce réalisateur. Donc c'est pour ça que je vous conseille fortement de regarder Pax Massilia avec ses qualités et ses défauts. C'est vraiment une œuvre, un vrai parti pris. C'est tellement rare aujourd'hui, d'autant plus sur Netflix, que même si votre temps est précieux, je vous le conseille vraiment de le dépenser devant Pax Massilia saison 1 et 2 sur Netflix. Je vous remercie.
Il arrive qu'il soit tendre, notre homme de loi des séries. Là, il avait mis deux robes d'avocat, au moins pour défendre Pax Massilia. Saison 2 à voir sur Netflix, vous l'avez compris. Question, ça vous fait penser à un western ?
Oui.
La réponse est, non.
Eh ben non.
Cette BO, on la doit à Romeo Diaz et James Wong. C'est la BO du film de John Woo, Une balle dans la tête. Probablement le film qui a jeté... Il en avait déjà fait des films, John Woo, mais celui-là, c'est le film de John Woo par excellence. Dedans, il y a des trucs qu'il avait fait avant... Dedans, il y a des trucs qu'il fera après. Il y a tout dans ce film-là. Une balle dans la tête, on est à Hong Kong en 67. Il y a des manifestations pro-communistes qui secouent la colonie britannique. Et il y a trois amis, Ben, Frank et Paul, qui tentent de subsister malgré leurs conditions sociales précaires. Mais, il y en a un qui va devenir assassin malgré lui, le jour même de son mariage. Et donc, il est obligé de fuir au Vietnam, accompagné de ses deux camarades. Il est projeté alors dans la guerre du Vietnam, parce que c'est le moment où elle a lieu, et cette guerre fait rage, et les trois jeunes hommes vont subir les pires revers et humiliations jusqu'à ce que leur amitié explose. C'est un film terrible, d'une violence rare, mais un film qu'il faut découvrir, parce que John Woo s'est construit avec ce film-là. Vous pouvez le découvrir au cinéma Pathé Labège, parce que le film est en ressortie nationale et il est aussi visible à Toulouse, à l'American Cosmographe. Sinon, il y a Silent Hill, mais il y a aussi Notting Hill. Et là, il se passe des choses.
Tromper les montagnes, attention.
C'est une petite colline, mais à Notting Hill, là, c'est plus charmant. C'est un chassé-croisé amoureux, Hugh Grant, Julia Roberts. Est-il besoin de décrire le film ? Non. Vous irez le revoir dimanche prochain, 8 février, au cinéma Pathé Labège à 19h15. Et puis, vous savez que les pâtés ont décidé de remettre au goût du jour Twilight. Nous en sommes au chapitre 2. La Tentation, c'était en 2009. Alors, au Wilson, il sera en VO, demain à 19h45, sinon en VF, à La Belge, samedi 7 février à 16h30. Ah, puis alors là, il y a un très beau et très grand classique d'Orson Welles, qu'on peut voir, lui, au VO de Muret, dimanche prochain, 8. Non, mais je me suis mélangé les crayons dans les dates. C'est à 18h10, c'est bien dimanche prochain. Le 8, hein, c'est ça, nous serons bien le 8 février. Oui. Le 8 février, c'est La Soif du Mal. La Soif du Mal. Il faut avoir vu Charlton Heston interpréter un flic mexicain.
Avec ce plan séquence culte.
Ah, oui. Mais il y a tout. Là aussi, hein. C'est Mike Vargas, c'est le policier mexicain qui est en voyage de noces. Et puis, il y a une bombe qui a explosé dans le secteur américain de Los Robles. Qu'est-ce qu'il vient faire là alors qu'il est en voyage de noces? Et puis, il va arriver Hank Quinlan, qui, lui, c'est un flic. Alors,
c'est le sombre héros de l'histoire.
Exactement. Si les flics sont chelous dans Pax Massilia, celui-là, il l'est encore plus encore. Pardon. Et c'est Orson Welles qui l'interprète. Mmh. Donc, il y a que du bon. C'est dimanche prochain, donc 18h10. Au VO de Muret, et puis vous irez à l'Utopia Bordeaux Rouge, toujours pour découvrir les quatre films de Rob Reiner, hein, n'est-ce pas Laurent? Vous qui les aimez, Quand Harry rencontre Sally, Princess Bride, Misery et Stand By Me. Exactement. Et puis, la Cinémathèque ne propose pas que Truffaut, puisque la galaxie Kurosawa vient de commencer. Nous sommes partenaires de la galaxie Kurosawa, et bah quoi, de Kurosawa, vous savez le principe de la
Akira ou Kiyoshi?
C'est Akira, c'est Akira. Akira. Alors, il propose Ran, là aussi, tout est dit, probablement l'œuvre maîtresse, celle-là aussi, de ce grand réalisateur japonais. Le film de tous les superlatifs, 220 chevaux, je sais plus combien, de figurants pour la bataille. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, à découvrir dimanche 8 février à 17h. Sinon, vous aimez danser sur les toits, ou ailleurs aussi.
Oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait, mais pourquoi pas, oui.
West Side Story. Dans la galaxie Kurosawa. Ouais. Eh oui. La dernière grande comédie musicale américaine, 1961. Roméo et Juliette. Là aussi. Mais c'est une guerre des gangs dans le West Side new-yorkais. Et ça marche. Ah. Quel film. Voilà. En tout cas, c'est ce que vous pouvez voir sur le grand écran. Pour les reprises, sur le petit, c'est avec vous, Laurent.
Le cinéma, la télévision, ça commence dès ce soir sur Arte à 20h55 avec Au témoin d'un doute de Karine Tardieu, avec François Damiens et Cécile de France. C'est l'histoire d'Erwan qui voit son existence basculer le jour où un simple examen médical révèle une vérité aussi brutale qu'inattendue. L'homme qu'il a toujours appelé papa, ben, ne l'est pas. Hein. Et ce secret le plonge dans un tourbillon de questions sans réponse. Voilà un film qui balance entre fantaisie et tendresse, assez irrésistible. Les acteurs sont en plus superbes. Jeudi, pour les allergiques du rugby, je vous rappelle qu'il y a France-Irlande jeudi, ne le ratez pas. Donc si vous n'aimez pas le rugby, ben, par exemple, vous pouvez les appeler sur France 4. Vous pourrez voir à 21h Sous le tapis de Camille Japy avec Ariane Ascaride et Bérénice Béjot. Dans la maison familiale, où dit les gens, les parents, hein, s'affairent à préparer la queue de leur tribu, ignorant que ce rassemblement va basculer dans le drame. Aussi, le film n'est pas exempt de maladresse. La sincérité et la justesse de sa démarche touchent assurément. Vendredi, France 5, 21h, Une histoire simple de Claude Sauté, Romy Schneider, Claude Brasseur, Bruno Kremer. Plongé dans le quotidien de Marie, une femme de 39 ans, graphiste à Paris en 1978, dont la vie semble suspendue entre les vestiges d'un passé familial et les incertitudes d'un présent tourmenté. Elle tente de naviguer entre ses responsabilités et ses désirs. Un portrait délicat, sensible et émouvant d'une femme indépendante, incarnée avec une grande justesse par la grande Romy Schneider. Dimanche, sur Arte, 20h55, on peut se faire une longue soirée cinéma. À 20h55, Gosford Park de Robert Altman. Angleterre, années 30, dans les murs imposants de Gosford Park, se joue une comédie humaine où chaque détail trahit les profondes fractures d'une société divisée. Un huis clos assez cocasse et jubilatoire. Et à 23h, on pourra enchaîner sur Les Fils de l'Homme d'Alfonso Cuarón avec Clive Owen, film de 2006. Nous sommes en 2027, on est bientôt. Le monde s'est éteint un petit feu, et vous savez pourquoi? Parce que l'humanité ne peut plus se reproduire. Il n'y a plus de bébés, plus d'enfants. Sans doute l'un des meilleurs films d'anticipation des années 2000. Vraiment un hallucinant tour de force cinématographique avec un plan séquence d'anthologie. Le bon plan de Lolo, ce sera le site arte.tv qui propose plusieurs films de Claude Chabrol gratuitement. On peut revoir Le Boucher avec Jean-Yann et Stéphane Ondran, Que la bête meurt avec Jean-Yann et Michel Duchaussois, Les Biches avec Jean-Louis Trintignant, La femme infidèle avec le duo ou le duel Bouquet-Audran, Les Noces rouges et bien d'autres. Donc n'hésitez pas à aller sur le site arte.tv. Voilà pour le cinéma à la télévision cette semaine.
Yo Jésus, tu cherches encore à gagner.
Cette musique, on aura l'occasion de l'écouter à l'ABC. Pourquoi ? Parce qu'elle illustre le film de Josh Safdie, Marty Supreme, qui est une des avant-premières que vous proposez à l'ABC, Marc. Et il y a d'autres choses, on a parlé des avant-premières. Là, alors c'est un film qui fait beaucoup parler, qui est beaucoup attendu, parce que Timothée Chalamet brille encore. Il a eu le Golden Globe, va-t-il supplanter Leonardo DiCaprio aux Oscars ? Là est la question.
Oui, il a la carte en ce moment, Timothée Chalamet, puis... Là, c'est cette histoire incroyable de ce pongiste, une production à 24, donc un film qui est, je pense, fortement attendu et qui figurera parmi les avant-premières, notamment d'un certain vendredi 13 à 20h30 à l'ABC. Et puis, je trouve ça assez... Je peux peut-être embrayer sur un autre, mais
oui.
D'avoir à la fois dans une programmation Timothée Chalamet et puis un film, une autre avant-première, Victor comme tout le monde avec Fabrice Luchini.
Oui.
Et je trouve que c'est un peu le spectre du cinéma dans toute sa variété. Luchini qui joue le rôle, c'est une fiction, mais intégré dans la réalité où il est sur Victor Hugo en boucle, j'allais dire, et avec toutes les incidences que ça a sur sa famille. Luchini, tel qu'on l'aime, c'est à l'air à la fois totalement insupportable et en même temps totalement brillant, où il nous subjugue lorsqu'il dit des textes. Donc voilà, il y a plus une autre avant-première, Woman and Child, de Saïd Rousti, qui avait fait La loi de Téhéran, qui était un film avec, j'allais dire du coffre, je sais pas, mais en tout cas qui a une certaine ampleur et ça fait aussi un bien fou dans le cinéma, donc beaucoup de variété.
Alors en parlant de variété, vous allez proposer des courts-métrages aussi, avec séquences courtes, des courts-métrages, les Césars.
Ouais, c'est ça.
On joue les Césars.
On a la possibilité d'avoir deux programmes de 2 heures chacune des films courts-métrages qui vont être proposés aux Césars. Et comme en plus la cérémonie sera le week-end suivant, on va proposer aux spectateurs de voter pour leur court-métrage préféré, voir s'ils ont un peu les mêmes goûts que le jury des Césars.
Et il y a quand même, il faut le noter, une séance spéciale dimanche 15 février, Les Amours d'une blonde de Miloš Forman. C'est un des premiers, si ce n'est le premier film projeté par l'ABC en 66.
Exactement, alors j'y étais pas, mais c'est selon...
Non. On va demander à Louis-Marie, vous y étiez ?
Non, j'y étais pas non plus.
Louis-Marie était là, il avait déjà 52 ans.
Oui, c'est ça. Et déjà... plus toutes ses dents.
Voilà. Oui, effectivement, c'est Les Amours d'une blonde, donc Miloš Forman, qui est un cinéaste tchécoslovaque, qui est absolument passionnant. Ben, c'est un peu la nouvelle vague de cette époque, hein, et c'est brillant, et il sera proposé un dimanche matin, en même temps que deux autres films.
On lui doit Amadeus, entre autres.
Amadeus, Ragtime, enfin tout un tas de...
Vol au-dessus d'un nid de coucou.
Vol au-dessus d'un nid de coucou, produit par Douglas Michael. Ouais.
Grand cinéaste.
Grand cinéaste. Vous proposez aussi justement un ciné-quiz.
Oui,
on joue avec le cinéma encore.
60 ans de cinéma, et c'est... Alors pour tous les joueurs, les gens qui aiment le cinéma, mais les joueurs en général, bah c'est... quelques secondes du début d'un film, c'est une affiche où il n'y a pas bien sûr le titre, c'est une bande sonore d'un extrait de film, c'est jubilatoire, on joue en équipe, il y aura plein de lots gagnés, on a demandé aux distributeurs de nous envoyer des lots, donc là on est vraiment sur l'amusement des gens qui aiment le cinéma. C'est bien. Allez-y en équipe, parce que c'est drôle à faire, et voilà.
Et en plus, tout le temps de ces 4 jours, on pourra se faire tirer le portrait.
Oui, il y aura tout un système de selfie-matique, de photomaton, mais argentique. Et vous pourrez repartir avec votre photo, et qui seront les 2 jours, le samedi et le dimanche, entre 16h-20h le samedi et 14h-18h le dimanche, donc pour garder un petit souvenir de ce passage à l'ABC.
Et c'est gratuit.
Et c'est gratuit.
On n'a pas parlé quand même, vous proposez un film horrifique, hein, Vampire Zombies from Space.
Alors là, c'est vraiment, je vais la dénoncer, Marie-Stéphane Gay, Marie-Sté, qui est fan de films de genre, et dès qu'il y a le mot zombie, déjà, elle est contente. Si on peut rajouter vampire avec, alors elle est encore plus contente. Donc, je lui fais entièrement confiance, mais c'est pour cette nuit déjantée, pour aller un peu plus loin dans l'horrifique.
Bon, ben alors, le rendez-vous est pris, Marc, tout se passe à l'ABC, du jeudi 12 février au dimanche 15 février, c'est là qu'il faut aller.
Ben oui, en tout cas, n'hésitez surtout pas à y aller, on sera là, il y aura le bar ouvert, on pourra discuter ensemble et de cinéma et de bien d'autres choses. Et tout à l'heure, j'écoutais les chroniques, c'est quand même assez génial cette chance qu'on a en France, toute cette diversité de films proposés, oui. Et sans jugement de valeur, de Marsupilami à Kaylee Richard, c'est quand même dingue. Et donc profitons-en, mais pleinement, et là vraiment sans modération, donc aller au cinéma, que ce soit à l'ABC bien évidemment, mais au Cosmo et tous les autres cinémas cités.
Mais c'est avec des cinémas comme le vôtre, et puis comme les grands aussi, mais comme le vôtre surtout, puisque c'est de lui dont on parle ce soir, que le cinéma peut faire un grand écart.
Ouais. Exactement. Même si ça peut être douloureux.
Oui, c'est vrai, ça peut être douloureux. Allez, juste avant de vous donner nos coups de cœur, ils sont à l'affiche d'un documentaire qu'on ne peut voir que 2 jours. Alors, guettez le jour, c'est le vendredi 6 et le dimanche 8 février, c'est dans les CGR, c'est Amadou et Mariam. Béla Bartók, qu'on peut entendre dans C'est nous l'orchestre, hein. Le film de Philippe Béziat, on peut entendre plein de choses, mais ce mouvement-là du mandarin merveilleux de Bartók, là, il est interprété par le Berliner Philharmoniker, le Philharmonique de Berlin. C'est plus simple à dire comme ça. Messieurs, le moment est venu de donner les coups de cœur. Alors, quels sont-ils ?
Les coups de cœur, ce sera pour À pied d'œuvre, N121 Bus de nuit et The Mastermind de Kelly Richard.
À pied d'œuvre, le gâteau du président, Amadou et Mariam sont du Mali. Et puis évidemment, les 60 ans de l'ABC du jeudi 12 au dimanche 15 février. Toute la programmation sur abc-toulouse.fr.
Eh bien, pour moi, ce sera à pied d'œuvre le film de Valérie Donzelli, Le gâteau du président, qui m'a cisaillé, littéralement, le film d'Hassan Hadi, tourné dans des conditions extraordinaires, très particulières, puisqu'il a été tourné en Irak. Et il n'y a pas de moyen de tourner des films en Irak. Eh ben, il a réussi à en trouver, et tous les acteurs qui sont dedans sont évidemment des acteurs non professionnels, et c'est un film bouleversant à tous les points de vue. Ce gâteau-là est terrible. Et puis en plus, nous irons à l'ABC, forcément, du jeudi 12 au dimanche 15 février. Merci encore, Marc.
Mais merci à vous, surtout.
Merci, messieurs.
Merci.
Bonne soirée à tous, à mercredi.
On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de L'Ouvreuse. Et à 20h, c'est Nathalie Cardon que vous retrouvez. Oui, à 20h, c'est Nathalie Cardon. Et surtout, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous devez rester fidèle à Présence. Et puis quoi d'autre encore? Ça.
Une fois, on est aussi.
Bonjour, c'est Marie-Leïla Koussa
et Frédéric Join.
Nous sommes heureux de vous retrouver
dans Écoute dans la nuit,
du lundi au mercredi avec Frédéric
et jeudi et vendredi avec Marie-Leïla.